pour dormir, je me mets sous ma couette. Il y a mes pieds qui débordent. Après, je mets ma tête à l'envers. Je me mets tout droit et après, je tourne et je mets mes mains en dessous de mon oreiller.
Maman, j'ai une veilleuse sous mon bureau. J'ouvre la porte et après, on sent la couverture. C'est comme si on était dans la mer. C'est trop agréable.
Des fois, mais c'est rare, je l'ai pour mon doudou.
C'est un doudou, mais il sourit et qui est méga, méga trop mignon. Il a des amis et il a une amoureuse qui s'appelle Mini.
Il a un nom, ton doudou ?
Doudou. Quand on dort, on grandit d'un centimètre.
Des fois, je fais des rêves où j'ai même pas besoin de marcher.
J'étais avec ma maman et il y avait un dragon qui crachait du feu, qui traversait toute la planète. Et après, il a brûlé ma maison.
Mais c'était seulement un rêve. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est peu de dire que le sujet de cette semaine me tient à cœur, car longtemps je me suis levée de bonne heure. J'animais sur France Inter le petit matin du week-end. Aussi devais-je me lever à 2h du mat les samedis et dimanches. Oui, ça piquait pas mal. Aujourd'hui encore, j'arrive à la radio à 6h20 en semaine pour une chronique dans le 5-7. Mais je veux le dire haut et fort, cette fatigue-là, celle du réveil qui sonne avant l'aube, n'est rien à côté de celle provoquée par un bébé. Car un nourrisson, pourtant si mignon, on ne sait jamais à quelle heure il va nous empêcher de dormir, ni pour combien de temps. Et c'est l'aléa qui change tout. Ensuite, en grandissant, les enfants dorment la nuit, parfois. Mais viennent alors les dents qui poussent, les terreurs nocturnes, les cauchemars, les questions à poser de toute urgence à maman en pleine nuit, ou le doudou qui a disparu, ou les draps qui sont mouillés, ou la couette qui est mal mise. Bref, le sommeil des parents est malmené pendant des années, sans compter les enfants et les ados de tous les âges qui ne veulent pas aller se coucher le soir. Oui, c'est l'aléa, c'est l'incertitude, c'est le flou qui est difficile. Alors essayons de comprendre leur sommeil à eux pour mieux accepter les conséquences sur notre sommeil à nous. Et ça piquera moins, assurément. C'est parti, sommeil des enfants, des pistes pour les parents.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et j'accueille mes trois invités qui sont bien réveillés. Nous avons convié deux pédopsychiatres et un père de famille qui va nous raconter ses nuits. Bonjour Carmen Schroeder.
Bonjour.
Bienvenue, pédopsychiatre spécialiste du sommeil de l'enfant. Vous êtes également chercheuse au CNRS, secrétaire générale de la SFRMS, Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil. Il faut sans doute nuancer ce qu'on vient d'entendre en introduction. Quand on dort, on grandit d'un centimètre, disait une petite fille à l'instant. Peut-être pas autant à chaque nuit.
Peut-être pas autant à chaque nuit. Elle a bien sûr tout à fait raison parce que l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil long profond. Donc effectivement, elle a bien compris, le sommeil fait grandir, entre autres.
Il est précieux de le rappeler aux enfants, ça, que le sommeil, ça fait grandir.
Exactement, il fait grandir, aide à apprendre, aide à être bien équilibré, en bonne santé. Donc c'est important de le communiquer.
Attention à ne pas glisser trop de suspense dans les histoires qu'on raconte aux enfants dans leur lit. Bonjour Rosa Jové.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes une pédopsychiatre espagnole de passage en France quelques jours. Vous publiez aux éditions Les Arènes « Histoire du soir pour bien dormir ». Comment inventer des histoires qui font dormir les enfants ? C'est traduit de l'espagnol par Béatrice Duner. Alors vous donnez des astuces pour raconter aux enfants les bonnes histoires, celles qui les font tomber dans les bras de Morphée. Votre livre précédent s'intitulait « Dormir sans larmes ». Certaines histoires aident mieux à dormir que d'autres, Rosa Jové.
Oui, c'est très important que l'histoire soit calme, tranquille, la raconter avec la voix basse, sans avoir c'est l'heure de dormir, non pressé,
sans urgence,
sans urgence. Mais rien ne fonctionnera pas si le bébé n'a pas de sommeil. Ça, alors, c'est la première chose et la plus importante.
Ça marche pour les bébés et pour les plus grands.
Oui, alors, il y a des parents qui racontent des histoires, ils ne dorment pas, ils n'ont pas de sommeil. Non, c'est très important. Mais dans la deuxième partie du livre, on a fait une histoire qui a les techniques psychologiques pour endormir les enfants.
Vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Mon troisième invité, je le disais, est un papa, et pas n'importe lequel. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes philosophe, chercheur à l'Université Paris 1 et chroniqueur sur France Inter. Grand bien vous fasse l'émission d'Ali Rebéi. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années à ce fameux horaire matutinal que j'évoquais à l'instant. Et vous avez quatre enfants, Thibaut, dont le dernier est un bébé. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait la grasse mat?
En fait, ça marchait plutôt bien jusqu'à l'arrivée du petit dernier, puisque j'ai un aîné qui a 13 ans, des jumeaux qui ont 11 ans, et puis un petit bébé là qui est né il y a 5 mois. Donc, il y a quand même eu une période où les grands se sont mis à faire vraiment leur nuit, à bien dormir. Et là, effectivement, on redécouvre de manière un petit peu brutale les nuits un peu courtes.
La philosophie vous aide-t-elle à affronter cette question du sommeil des enfants ?
Alors, vraiment, en plein milieu de la nuit, quand il s'agit de se réveiller, c'est pas la philosophie qui m'aide. En revanche, non, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Moi, j'adore, de toute façon, réfléchir, et c'est ce que je fais avec Ali, c'est réfléchir sur la vie ordinaire. La vie ordinaire, elle est pleine de problèmes philosophiques, et c'est vrai que le sommeil en tant que tel et le sommeil des enfants, en fait, par exemple, moi, une des choses que ça m'a appris de voir mes enfants, justement, dans cette relation au sommeil, c'est que ce qui paraît naturel, en fait, est pourtant le résultat d'un apprentissage. Voilà, il faut apprendre à s'endormir, il faut apprendre à dormir. On peut pas juste faire confiance comme ça en disant c'est un des grands. Bien sûr, c'est un grand rythme biologique, mais il y a tout un ensemble de conditions, tout un ensemble de voilà. Et il faut autant apprendre pour l'enfant, je pense, que pour les parents, à se rendre attentif aux signaux envoyés par les enfants. À l'environnement, c'est vrai, est-ce qu'il y a suffisamment de calme dans la pièce, est-ce qu'il n'y a pas trop de lumière, est-ce que même le rythme de reste de la famille autour de l'enfant est propice à son endormissement.
Et cela renvoie au rituel autour du sommeil, très important les rituels, on va y venir dans un instant. Cette émission en partenariat avec Bayard Jeunesse est préparée par Margot Page, réalisée par Christophe Imbert. Julien Dumont est à la technique, c'est Barbatruc jusqu'à 16h.
14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre, une humeur de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines. Peut-être à perdre ce qu'on aime. 17 ans, première rupture. Même s'il était temps, mon premier amour, c'est fini, c'est dur. Et d'autres soucis, mais tout finit par passer. Ainsi va la vie. Même quand mon cœur s'était déchiré. Quand s'arrête un cœur, moi j'ai grandi. Mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout.
Dorothée Barba.
On s'habitue, c'était Angèle sur France Inter. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Le sommeil des enfants. Voilà le vaste et complexe sujet de cette semaine dans Barbatruc avec Carmen Schroeder qui est pédopsychiatre, spécialiste du sommeil des enfants. Avec Rosa Jauvet, pédopsychiatre également, autrice de Histoire du soir pour bien dormir. Et avec Thibaut de Saint-Maurice, enseignant en philo, père de famille nombreuse et chercheur à Paris 1. Carmen Schroeder, quelle est l'idée fausse que vous voudriez balayer tout de suite, que vous rencontrez le plus souvent sur ce sujet, le sommeil des enfants?
Je pense au niveau de sociétal, c'est probablement que le sommeil serait une perte de temps et que justement on pourrait tout optimiser. On peut aussi apprendre à moins dormir, alors qu'on sait aujourd'hui que chacun a vraiment son besoin de sommeil propre. Et ça va être aussi le cas pour l'enfant. Bien sûr, âge dépendant, mais chaque enfant a son propre besoin de sommeil. Il y a des courts dormeurs, il y a des longs dormeurs, c'est à peu près comme leurs parents. Et aussi, chacun a besoin de son propre rythme. Donc, il y a des chronotypes du soir, du matin, des couches tard, lève tard, des couches tôt, lève tôt, naturellement. Et il faut bien connaître ça pour pouvoir répondre aux besoins de sommeil des enfants.
On a souvent besoin de chiffres sur ce sujet-là. On estime en général qu'un enfant entre 3 et 5 ans a besoin de 10 à 13 heures de sommeil par nuit. Pour les 6-12 ans, on parle de 9 à 12 heures par nuit. Et pour les 13-18 ans, de 8 à 10 heures. Est-ce que ces chiffres vous semblent pertinents?
C'est vraiment le minimum, je dirais, pour la moyenne minimum. Des enfants de leur âge. Mais il y a des courts dormeurs qui peuvent tout à fait faire avec moins de sommeil. C'est un avantage génétique, si on veut, aujourd'hui dans notre société. Mais il y a aussi des longs dormeurs qui ont besoin de bien plus d'heures de sommeil sans que ça soit une pathologie. Donc il faut vraiment veiller à ce que chacun a son besoin de sommeil.
J'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette émission à quel point l'expression « faire ses nuits » m'exaspère, oui. Parce qu'elle donne l'impression qu'un beau jour ou peut-être une nuit, paf, tout s'arrange et l'enfant dort. Or, parfois, les enfants dorment pendant plusieurs mois et ensuite, à nouveau, ils se réveillent pour mille et une raisons. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression « faire ses nuits » ?
Effectivement, c'est un mythe qui se crée, que certains parents disent même dès la maternité, sortie de la maternité, mon enfant a fait ses nuits, c'est absolument pas vrai. Oui, oui. Jusqu'à 18 mois, c'est tout à fait normal qu'un enfant se réveille entre 5 à 10 fois par nuit pendant 1 à 10 minutes de durée, c'est totalement normal. Après, ce qui va distinguer l'impact sur la famille va être si l'enfant doit à chaque fois appeler ses parents.
Réveiller tout le monde.
Exactement, pour pouvoir se rendormir. Et du coup, effectivement, ce qu'on essaye d'encourager, qu'un enfant puisse s'auto-apaiser le plus tôt possible, qui peut parfois le faire en présence des parents, mais pas nécessairement toujours en présence des parents.
Cette expression existe-t-elle aussi en espagnol, Rosa Jové, faire ses nuits?
Oui, dormir toda la noche.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée qu'un jour, l'enfant fait ses nuits?
Comme Carmen a dit, 80% des enfants jusqu'à un an se réveillent. Il y a des études qui démontrent cela.
L'écrivaine Marie Dariussec a consacré un très beau livre à l'insomnie, édité chez POL. Pas dormir, c'est le titre. Et elle écrit ceci. Les bébés ont fait leur nuit et j'ai défait les miennes. À mesure que mes enfants apprenaient à dormir, j'ai désappris. J'avais, faut-il croire, échangé mon sommeil contre mes bébés. Pourtant, j'aurais dû dormir puisqu'ils dormaient. Mais comment dormirais-je puisqu'ils sont mortels? Ça convoque, je crois, Thibaut de Saint-Maurice, quelque chose d'essentiel, c'est l'inquiétude autour du sommeil.
Oui, alors c'est vrai que les poètes baroques, par exemple, parlaient du sommeil comme étant l'image de la mort. Voilà, et peut-être ça vous est déjà arrivé de visiter un château dans lequel il y a un lit et on vous explique que dans les temps anciens, on ne dormait pas allongé parce que c'était que les morts qu'on allongeait, on dormait assis, etc. etc. Donc il y a tout ça aussi qui est charrié par le sommeil.
Et on s'inquiète pour nos enfants qui
alors,
ne dorment pas.
Alors on s'inquiète effectivement pour les enfants. C'est certain que quand on devient parent, on découvre cette inquiétude. Et puis on se pose après, quand ils grandissent, des questions sur l'éducation. Et même parfois, du coup, c'est la discussion de couple qui se prolonge tard dans la soirée et dans la nuit parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord ou qu'on cherche une solution à une difficulté d'éducation ou que rencontre notre enfant, que ce soit à l'école, dans une activité ou avec des amis, etc. Ce qui est certain, c'est que ce que l'on pensait être notre sommeil, en fait, n'est plus exactement le nôtre. C'est une forme de dépossession, alors qu'il y a la conséquence d'accepter d'avoir des enfants, etc. Mais il y a une forme de dépossession aussi de quelque chose qui nous semblait pourtant un peu réservé, intime.
C'est un deuil, en fait.
Un deuil, je sais pas, parce que, comment dire, on ne le perd pas complètement, sinon ça serait un petit peu difficile. Mais c'est l'expérience de la dépossession, elle va jusque là. C'est-à-dire que je ne peux pas complètement considérer que mes nuits m'appartiennent et que le repos que j'espère de mes nuits m'appartiennent, parce qu'il faut aussi que j'y fasse entrer ma famille.
Écoutons des enfants. Notre reporter cette semaine a tendu son micro à des petits entre 5 et 10 ans. Ils vont nous raconter, car c'est très important, leur rituel de sommeil.
Quand j'ai fini de manger, bah je me brosse les dents et après mon père me lit une histoire.
En fait, je prends mon bain et je vais manger. Après, je me brosse les dents et après, je lis une histoire et je m'endors. En fait, j'allume une loupiote à l'extérieur de ma chambre. Devant les toilettes, je ferme ma porte et puis je dors avec ma petite sœur. Je me borde.
Je sais lire maintenant parce que je suis en séance. Mais je lis jamais avant de m'endormir.
À quelle heure vous vous couchez à peu près le soir?
Moi, 20 heures.
Quand il y a des copines, je me couche au moins à 21h.
20h, pareil.
Mais en fait, moi, je sais lire tout seul, alors j'ai tout seul.
Et ma maman, elle vient me lire une histoire. La petite sorcière malfaisante.
Ariol. Ariol et Anatole.
Maman, j'ai un bonnet, mais le bonnet de Spider-Man, et il brille en noir. C'est ça qui m'aide. Et la musique de Spider-Man. Et je finis quand je suis en train de dormir. Parce que mon bonnet, il sait tout le temps quand je m'endors.
Pourquoi est-ce que vous pensez que les grands, ils se couchent plus tard que les enfants?
Parce qu'eux, ils regardent la télé. Et ma mère, elle a une tablette où on peut lire. Elle lit dessus. Et mon père, il écoute des émissions sur son téléphone. Et j'entends des bruits de vaisselle en bas.
Parce que moi, j'entends mes parents débarrasser la table. Et j'entends des bruits de la télé.
Est-ce que vous pensez que les adultes, ils sont moins fatigués que les enfants?
Oui. Parce que les adultes, ils sont plus grands. Et aussi, c'est parce qu'ils veulent pas s'endormir direct, parce que peut-être ils veulent voir des vidéos.
Oui, c'est sans doute pour ça. Propos recueillis par Juliette Brutaud. À quoi servent les rituels, Carmen Schroeder?
Je pense parmi toutes les approches qu'on peut avoir, c'est probablement singulièrement la plus efficace, parce que ça va aider à l'enfant de structurer la soirée, de la rendre prévisible et de créer un intervalle très agréable, un espace transitionnel pour le passage vers le sommeil. Et souvent, c'est un peu co-construit pour le jeune enfant. Donc, il y a des berceuses, il y a des histoires qui sont racontées. Donc, si c'est bien fait, un moment vraiment très agréable pour les parents et pour leurs enfants. La longueur n'est pas vraiment importante.
Voilà, parce que ça peut être un peu fastidieux.
Exactement.
Je pense mille parfois, trucs à faire avant d'aller se coucher.
Les parents ne doivent pas être trop exigeants, notamment si on a plusieurs enfants. Si c'est 5-10 minutes, mais tous les jours, c'est beaucoup mieux que si c'est de temps en temps une demi-heure. Donc que ça soit régulier, prévisible. Et on a bien entendu chacun son truc. Il y a celle qui met les pieds dehors et celle qui borde.
le bonnet Spider-Man, je dois dire, est assez surprenant. Est-ce que vous avez aussi chez vous, Thibaut de Saint-Maurice, des rituels singuliers?
Oui, il y a eu des rituels. Ma fille encore a un rituel. C'est très important d'avoir ses doudous avec elle, bien sûr. Et puis, il y a une certaine manière de mettre la couette et par-dessus la couette de mettre la couverture. Voilà. Et puis, il faut continuer. Il y a un étage chez moi, mais il faut continuer à descendre, dire bonsoir.
Quel
que soit l'âge, c'est vraiment très, très important.
Donc, c'est un besoin de régularité, tout simplement.
Ouais, de régularité. Et puis, j'aime bien cette idée que vous disiez de rendre les choses prévisibles. Parce que, en fait, la nuit, c'est l'espace aussi des choses imprévues et du danger qui peut arriver. Et pas forcément des trucs les plus horribles, mais pour les enfants, parfois, c'est des cauchemars ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça, c'est très important, la prévisibilité.
Carmen Schroeder, un horaire fixe pour le coucher, c'est important, d'après vous?
Non, pas du tout. Mais la régularité, dans la limite possible, c'est quand même une bonne chose. Notamment du lever, d'ailleurs, plus que du coucher.
Allez, on poursuit cette discussion dans un instant. J'ai à présent un conseil de lecture pour les ados. Le magazine Phosphore consacre un dossier aux relations dans les fratries. Le titre « Frères et sœurs, vos conseils anti-embrouille ». Et la bonne idée, c'est d'avoir donné la parole à des ados plutôt qu'à des experts, ou plutôt à des ados experts. Ils ont entre 14 et 17 ans et ils donnent des conseils pleins de sagesse aux lecteurs et lectrices. C'est pas parce qu'on a les mêmes parents qu'on est forcément des potes, explique par exemple Pierre. Il y a toujours des moments où l'on s'éloigne un peu et d'autres où on se rapproche. De quoi déculpabiliser, je crois, ceux qui s'entendent mal. Amandine, quant à elle, raconte la solution qu'elle a trouvée avec son petit frère quand les disputes deviennent trop dures. Ils utilisent un bâton de parole pour que chacun puisse s'exprimer sans être coupé. Ils vont sous le lit de leurs parents et se tendent le bâton de parole. Chacun peut parler à son tour, le bâton à la main, et l'autre doit écouter. Chacun dit ce qu'il ressent et on s'explique, précise Amandine. Frères et sœurs, vos conseils anti-embrouille, c'est dans le magazine Phosphore. Et j'ai appris au passage dans un autre article que le mot « daron » à l'origine signifiait « patron ». C'est Louis-Ferdinand Céline le premier à avoir employé ce terme comme un synonyme de « parent » en 1936. « Il me parlait souvent de sa daronne, mais jamais il me la montrait », lit-on dans le roman « Mort à crédit ». Et maintenant, au lit. Non, un peu de musique sur France Inter. Voici Franz Ferdinand, debout là-dedans.
Barbatruc avec Dorothée Barba.
I'm thinking about
Bienheureux les assoupis, ils s'endormiront bientôt, écrivait Nietzsche. Je me sens obligée, en présence de Thibaut de Saint-Maurice, de saupoudrer cette émission de philosophie. Nous parlons du sommeil des enfants cette semaine dans Barbatruc, avec Thibaut de Saint-Maurice donc, et avec deux pédopsychiatres spécialistes du sommeil, Rosa Jauvet et Carmen Schroeder. Qu'est-ce qu'il veut dire là, Nietzsche? Heureux les assoupis, ils s'endormiront bientôt.
Alors, assoupis ici, c'est plutôt une métaphore. Ouais. On peut la traduire aussi par bienheureux ceux qui dorment, ils ne seront pas réveillés. C'est, voilà, on ne se laisse pas déranger par de nouvelles idées, etc. Ben en fait, voilà, la vie se passera sans nous, quoi.
Carmen Schroeder, question importante en termes de culpabilité des parents, si j'ose dire. Est-ce que la qualité du sommeil des enfants a une influence sur la qualité du sommeil qu'ils auront quand ils seront adultes?
Alors, premièrement, pour soulager tout le monde, il y a un aspect développemental. Donc, en général, avec l'âge, le sommeil va s'améliorer, chacun trouve son rythme et le sommeil va devenir de meilleure qualité. La seule chose peut-être à éviter, c'est d'être trop rigide en tant que parent par rapport au sommeil de l'enfant et d'être trop angoissé finalement par rapport à leur sommeil. Parce que du coup, on peut créer des attitudes un peu de futur insomniaque où l'enfant se dit tout le temps, mince, je ne dors pas encore, je devrais dormir, sinon demain je n'arrive pas à être concentré à l'école, etc. Avoir une attitude plutôt un peu attentive, soutenue, c'est certainement une meilleure façon pour ne pas favoriser ce type d'attitude.
Vous êtes d'accord avec ça, Rosa Jauvet, ne
totalement
pas être trop rigide?
D'accord. Non, parce que le bébé a de l'anxiété. Et le moment d'aller à dormir doit être un moment très calme, très agréable pour l'enfant.
Et raconter des histoires est toujours une bonne idée. Je le disais, vous expliquez dans votre livre quelles sont les vertus d'une bonne histoire pour endormir les enfants. Finalement, vous voulez transformer les parents en hypnotiseurs, c'est ça à peu près?
Ah non. C'est que il y a une histoire, on a mis dedans les techniques psychologiques. Une de ces techniques, c'est l'hypnose, mais on n'hypnotise pas les enfants. C'est une espèce de relaxation dans la phase 1 de sommeil. Hein? Et c'est seulement cela, on ne va pas hypnotiser aux personnes.
Et vous parlez, c'est important, des vertus de la répétition. Raconter la même histoire plusieurs soirs de suite, ça, on est de très nombreux parents à savoir à quel point c'est efficace, mais aussi placer la répétition dans l'histoire, des tournures de phrases qui reviennent par exemple, ça c'est très important.
Seulement pour les histoires de s'endormir, les autres non.
Des anaphores, on dirait en technique de rhétorique.
Parce que quand on répète une chose, si l'enfant connaît, il fait comme un break.
Ça le rassure.
Oui, et alors il peut s'endormir dans ces moments. Alors c'est très important de répéter des phrases, de répéter des moments qu'il a connus déjà, les fins de l'histoire, sinon qu'est-ce qui s'est pas passé.
Surtout pas de suspense dans une histoire avant de dormir.
C'est très important tout cela. Pour faire une bonne histoire, pour dormir.
Carmen Schroeder. Favorise le lâcher prise, justement. Donc, l'enfant se laisse aller dans le sommeil.
Oui, c'est pour cela.
Avez-vous pratiqué, Thibaut de Saint-Maurice, la répétition dans l'histoire du soir?
Oula, oui, de nombreuses fois. Oui, des histoires qui, d'ailleurs, sont réclamées aussi par les enfants. Et c'est vrai que dans la journée, on lit peut-être plus facilement des histoires nouvelles, parce que d'ailleurs, on a un petit peu marre aussi de lire toujours les mêmes histoires. Mais je trouve qu'effectivement, le soir, les enfants réclament plutôt, enfin, les miens en tout cas, réclamaient plutôt des histoires un peu rituelles, un peu typiques du soir. Et juste peut-être une pratique tout à fait singulière, mais c'est amusant aussi de leur faire raconter une histoire.
Eux-mêmes,
en fait. Parce que à force d'avoir lu beaucoup le livre, en fait, ils le connaissent bien aussi. Et donc, le soir, c'était le moment où ils pouvaient aussi me raconter à moi l'histoire du livre. Alors peut-être, j'espère que ça les mettait pas trop en activité ou quoi, mais en tout cas, c'était un moment qui était plutôt apprécié et ça faisait aussi un peu entre histoire et rituel, quoi.
Est-ce qu'on connaît, Carmen Schroeder, les liens entre l'histoire du soir et les rêves pendant la nuit?
Oui, alors ça peut être tout à fait repris, toujours d'une façon un peu déguisée. On commençait, la grande majorité des enfants rêvent fréquemment, beaucoup plus que les adultes, et peuvent aussi plus facilement s'en souvenir quand ils se réveillent au milieu de la nuit. Et chez l'enfant aussi, ce qui est plus que chez l'adulte, un phénomène fascinant, c'est les rêves lucides. C'est-à-dire les enfants réalisent beaucoup plus souvent que nous qu'ils sont en train de rêver et qu'ils peuvent parfois avoir même une influence sur le décours de leurs rêves. Et ce sont probablement les enfants qui font fréquemment des cauchemars, qui apprennent ça, cette technique-là, pour se sortir de leur cauchemar.
Peut-on les aider à manipuler leurs propres rêves?
Il y a aussi des techniques aujourd'hui qui suggèrent qu'on peut aider aux enfants de devenir rêveurs lucides, notamment pour les enfants qui font beaucoup de cauchemars.
Alors,
pour réaliser.
Comment fait-on?
Alors, c'est effectivement de leur faire raconter au réveil ce qui s'est passé et après de modifier des scénarios des cauchemars avec eux avant de s'endormir. C'est une des techniques qui
marche bien. Les finales, surtout.
C'est ça.
La fin du cauchemar.
Voilà. Oui, ça peut être pas en dessin ou en écrivant en fonction de l'âge. l'enfant.
Alors justement, la parole est à nouveau aux enfants, au micro de Juliette Proutot. On se penche sur le côté obscur de la nuit.
Est-ce que vous avez peur de la nuit?
Je me rappelle d'un cauchemar de quand j'étais petite, il était super peur. En fait, j'étais chez moi, et chez moi, je vois dans ma cuisine un pied. Un pied derrière les toilettes. Un pied avec des poils, des griffes. Et je me retournais à nez avec un loup. Et après, il y a plein de loups qui surgissent du salon. Donc après, moi, je cours dehors, mais j'ai pas la clé.
Toi, tu fais quoi quand t'as fait un cauchemar?
Je vais dans le lit de mes parents et je leur dis, je leur fais un câlin.
Ben moi, je fais un cauchemar. Après, je sors de ma chambre et je cours sur le canapé. Je mets mes chaussures, je mets mon manteau et je sors de la rue.
Tu fugues quand t'as fait un cauchemar?
Moi, j'ai un trap-rêve. Ben, c'est comme un truc de pêcheur,
ouais.
Mais sauf que ça attrape que des rêves. En fait, quand je ferme la porte, je trouve que... En fait, j'ai des porte-manteaux sur ma porte. Et dans le noir, je trouve que mes manteaux ressemblent à un grand loup, un ours qui vient chasser.
Est-ce que la nuit, ça fait peur?
Oui. Ben, parce que moi, je trouve qu'il y a... Quand ma maman elle fait des pas, et ben en fait je trouve qu'il y a un loup qui s'approche de ma chambre.
J'ai pas peur des sorcières.
Ma mère c'est une sorcière. C'est ma mère qui a dit ça, mais une sorcière très gentille.
Après j'ai pas peur des monstres parce que je sais que les monstres n'existent pas.
La nuit est une menace, Thibaut de Saint-Maurice. Il faut tâcher d'être tendre avec nos modes adultes. Comment faire?
Oui, je sais pas, c'est un mystère, je sais pas très bien. C'est vrai qu'on se passe beaucoup de temps à se rassurer. Parfois, c'est étonnant aussi de tout ce que là, on l'a entendu, tout ce que les enfants projettent, des histoires de monstres, de sorcières, etc.,
de loups,
etc. Alors, bien sûr que on est un peu responsable en tant que parents parce qu'on leur raconte des tas d'histoires où il y a des loups, des sorcières et des monstres. Hein, donc, ça développe leur imaginaire. Et en même temps, je sais pas, je me console peut-être un peu facilement, mais je parle sous le contrôle des médecins qui sont là. Il paraît que, comment dire, apprivoiser ces terreurs, c'est important pour les enfants. Donc peut-être que nous, on peut essayer de rassurer en tant que parents nos enfants, mais peut-être qu'au fond, c'est un vrai combat qu'ils ont à livrer avec leur propre imaginaire.
Et ils peuvent, encore une fois, apprendre à les manipuler, à les piloter en tout cas, à tout le moins, ces rêves, Carmen Schroeder.
Exactement, je pense que les histoires ont toujours contenu des histoires terribles avec des loups, etc. Et c'est vraiment aussi... On voit le contenu des rêves change avec l'âge. Donc l'âge des monstres, des loups, c'est vraiment typiquement autour de 4-5 ans. Et plus tard, ça va se modifier pour beaucoup. Ils vont plutôt rêver de leur professeur d'anglais ou de la méchante maman sorcière. Mais on peut travailler ça avec les enfants. Et aujourd'hui, les techniques qu'on a sont vraiment redoutablement efficaces pour ça.
Et quel conseil vous donnez sur ce terrain-là aux parents? Est-ce que c'est important de laisser la place pour parler des cauchemars, parler des rêves, raconter ce qui s'est passé pendant la nuit?
Alors, peut-être pas tout de suite au réveil, mais dans la journée, ce qu'on peut faire, on peut avoir un récit de rêve, peut-être pas le plus angoissant, l'écrire avec l'enfant ou le dessiner avec un enfant plus petit, et après le modifier ensemble, c'est-à-dire de trouver une autre fin, ou par exemple si c'est un dessin, de rendre le dessin beaucoup plus rigolo en ajoutant plein de choses. Et c'est finalement, et de regarder ça à nouveau ou le relire avant le coucher. Et ça marche très très bien.
Donc,
et ne pas forcément chercher une explication à tout.
Le dessin, on m'avait conseillé moi une fois de faire dessiner son cauchemar à mon fils, et ensuite on déchire le dessin et on le jette à la poubelle. On peut avoir l'impression aussi que plus on parle du sommeil, plus on cherche des solutions face à un enfant qui ne dort pas forcément très bien, plus on se focalise dessus, quel que soit l'âge de l'enfant d'ailleurs, et plus c'est contre-productif. Est-ce qu'il faudrait parfois en faire un non-sujet, Carmen Schroeder, du sommeil à la maison?
Alors, ça ne marche jamais quand c'est un sujet d'en faire un non-sujet. Hein. Donc c'est quand
bien
ne pensez pas à ça. Non, si tout tourne autour de ça, là c'est vraiment le moment de consulter, parler au pédiatre, au médecin généraliste, ou chercher vraiment de l'aide plus spécifique. Par exemple, un excellent site que je peux conseiller à tous les parents en France, c'est le réseau Morphée. C'est un site francilien qui a une très bonne section sur le sommeil de l'enfant. Il y a 3 catégories et on peut trouver des professionnels spécialisés. Parce que je pense un petit accompagnement, ça n'a pas besoin d'être long, et du coup la meilleure façon pour vérifier déjà est-ce qu'il y a, de quel problème s'agit-il, et pour soutenir la famille pour en sortir. Juste l'éviter, ça ne marche pas.
Bon. Quel est le critère? À partir de quel moment on considère qu'il y a un problème et qu'il faut consulter un spécialiste?
Alors, pour être tout à fait simple, s'il y a des répercussions la journée. Donc, il y a une chose, si la nuit, ça se passe mal, mais si la journée, soit l'enfant, soit les parents sont largement impactés, les parents ne peuvent plus affronter leur travail, doivent se mettre en arrêt maladie, par exemple, et évidemment, ce sont tous des signaux d'alerte, et à ce moment-là, ça mérite largement une consultation.
Thibaut de Saint-Maurice, je me tourne vers le père de famille nombreuse. Les astuces, les règles, les solutions qu'on a trouvées pour un enfant fonctionnent-elles en général pour le suivant ou pour la suivante ?
Non. non, mais ça aussi, c'est assez beau. C'est-à-dire qu'on apprend, en fait, à individualiser, à se rendre attentif, en fait.
C'est pas de l'élevage en batterie, donc.
Et c'est ça. Et on apprend, en fait, à se rendre attentif à chacun de ses enfants. Pour donner un exemple, le premier avait besoin pour faire ses siestes, par exemple, d'être vraiment dans un environnement très calme et faisait ses siestes dans un environnement très calme. Et après, les jumeaux, par exemple, au contraire. C'est-à-dire que les meilleures siestes qu'ils faisaient, c'est quand on était en promenade, quand on était même avec du monde. Voilà. On apprend, en fait. Et je trouve ça assez beau parce que ça veut dire, en fait, que faut se mettre à l'école de ses enfants. Et apprendre comme ça à découvrir leur petite singularité, leur petite personnalité. Et pas forcément les traiter comme, se dire que l'éducation, ça va être une sorte de moule où ils vont tous y passer, quoi.
Carmen Schroeder, il faut s'adapter à nos enfants.
Tout à fait. Je pense que le sommeil, c'est un bon baromètre de cet ajustement réciproque, en fait. Hein. Alors, les parents s'adaptent à leur enfant, mais aussi l'enfant va s'adapter à ses parents et à la famille, à la fratrie, comme chez vous, s'il y a plusieurs enfants. Et je pense que s'il y a des troubles du sommeil importants, ou en tout cas l'impression qu'il y a des troubles du sommeil importants, parfois ça peut aussi refléter des petites difficultés ou quelque chose qui a un peu mal tourné pendant un certain temps, et du coup, on peut effectivement intervenir à ce niveau-là aussi.
Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous raconter de parents qui ont réussi à lever une difficulté de sommeil chez leurs enfants avec une solution qui paraissait pourtant simple?
Alors, par exemple, il peut y avoir des malentendus très fréquents autour de l'âge de 3-4 ans, l'âge où la sieste va disparaître. Mmh. Parce qu'en réalité, il y a des enfants à 2 ans qui n'ont plus besoin de faire la sieste, alors qu'en petite section maternelle, en France, tous les enfants doivent dormir. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va avoir du mal à s'endormir le soir. Rien que d'en discuter avec les parents et de dire, il y a deux choix. Soit on demande à l'école que l'enfant reste avec les moyens et ne fait pas la sieste, et du coup, il va dormir à la même heure, ou vous acceptez qu'il fasse la sieste, mais il faut automatiquement juste le coucher plus tard le soir, parce qu'il ne peut pas dormir plus. Et à l'inverse, on peut avoir des enfants à 4-5 ans qui font des crises de colère terribles en fin d'après-midi parce qu'ils auraient encore besoin de faire la sieste, alors qu'à partir de la moyenne section, on n'a plus le droit de faire la sieste. Et donc, ça crée des troubles du comportement. Et donc, ce sont typiquement les choses où il faut se rendre compte de la source du problème, essayer de trouver une solution simple, et après, il n'y a plus de difficultés, en fait.
Donc, c'est vrai que quand on ne fait plus la sieste, a priori, on a plus besoin de dormir le soir.
Oui, absolument. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'à partir de l'âge de 2 ans, le plus qu'on dort la journée, le moins que l'enfant va dormir la nuit, mais ça ne veut pas dire qu'à partir de 2 ans, il faut arrêter de faire la sieste. Oui. Parce qu'elle reste importante pour la régulation émotionnelle et aussi pour les apprentissages. Mais forcément, ça va impacter un peu sur l'endormissement, par exemple, le soir.
Et ne perdez jamais une occasion de demander à un enfant de raconter ses rêves.
Est-ce que tu connais les Pokémon ?
Ouais.
En fait, j'ai rêvé de plein de Pokémon et j'étais avec ma mère et mon père et mon frère qui s'appelle Léo. On est en train de jouer avec les Pokémon. Et il en a un de méchant qui a couru et il est couru sur moi. Et moi, je me suis décalée et il est foncé dans le mur. Moi, j'ai un super, super rêve.
Vas-y.
En fait, on était en train de courir dans la nature et après, on a construit une maison, une cabane en bois. Et après... Le cheval est parti sur notre maison et il a fabriqué lui-même avec du bois un matelas pour lui. 1, 2, 3, 4, 5. Il a préparé 5 lits.
Barbatruc, France Inter, le samedi à 15h.
think love is just fun and game. Trying to be a playboy. All you do is run around using hearts for play toys.
C'était Anne Peebles sur France Inter. Le dodo est un animal gracieux mais disparu. C'est aussi le surnom qu'on donne parfois à celle qui s'appelle Dorothée. Et c'est le petit mot mignon qu'on utilise pour désigner ce truc indispensable qu'on appelle le sommeil. Nous parlons dodo des enfants. Aujourd'hui avec mes trois invités, Rosa Jauvet, Carmen Schroeder et Thibaut de Saint-Maurice. Carmen Schroeder, les écrans, c'est important d'en parler évidemment. À quel point empêchent-ils notamment les adolescents de dormir le soir ?
Alors les écrans ne sont à aucun âge bons pour l'endormissement et pourtant on a entendu dans les témoignages tout à l'heure, maman est sur la tablette, elle lit la télé, etc. Donc ils sont omniprésents aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas les démoniser, les écrans sont aussi bons pour plein de choses, on peut apprendre avec les écrans, etc. Mais c'est vrai, il serait important d'avoir un sas en soirée, idéalement 1 à 2 heures avant le coucher de l'enfant, n'utiliserait plus les écrans, mais du coup les parents non plus dans l'idéal. Parce que
exemplarité des parents.
C'est ça. En fait, chez les petits, on sait que chaque heure d'utilisation d'une tablette avant l'âge de 3 ans va correspondre à une perte de 15 minutes de sommeil environ. Chez l'adolescent, c'est plus embêtant parce que l'adolescent est facilement décalé. On a tout à l'heure parlé des chronotypes du soir, les couches tard, lève tard, mais l'adolescent va être encore plus extrêmement couche tard, lève tard. C'est un phénomène maturationnel qui n'est pas la faute de l'adolescent, mais hélas, les tablettes le soir, la lumière émanant des tablettes, c'est une lumière très bleutée, issue de la technologie LED, va donner un faux signal à notre horloge biologique qui essaie de s'y adapter en se recalant et donc aggravant le retard de phase. Donc, il faut trouver une solution.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez été prof de philo au lycée pendant plusieurs années. Je ne sais pas si c'est un sujet de bac philo, ça, le sommeil des enfants, mais dans une dissertation, moi je commencerai assurément par une citation d'Émile Sioran. On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil, disait Sioran.
Oui, ouais. Je pense que s'il avait envie de rentabiliser ses insomnies, l'ami Sioran. Et effectivement, il y a cette histoire que quand la nuit devient blanche et que le sommeil est introuvable pour Sioran, en tout cas, bah il y a le fait qu'on apprend effectivement sur soi, mais en fait, du point de vue de Sioran, en tout cas, c'est pour sur l'existence, c'est-à-dire sur le fait que ne pas avoir ce repos qu'est le sommeil normalement et qui nous permet de repartir chaque jour et de vivre la succession des jours. C'est une sorte de point d'observation extrêmement pénible mais extrêmement précieux sur la difficulté qu'il y a à exister.
Et sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, le recul est précieux. Donc on peut peut-être s'adresser aux jeunes parents qui nous écoutent et qui dorment très mal. Ça passe. Il faut leur rappeler que ça passe.
Ça passe, bien sûr.
Et ça va aller.
Non, bien sûr, ça passe. Et puis, sur l'histoire des écrans et des ados, alors, j'ai des très jeunes ados à la maison et effectivement, je découvre ça, cette difficulté des écrans, du téléphone, de la tablette le soir. Donc, on essaye de mettre en place des règles. Ça marche, ça marche pas. Pas de téléphone dans les chambres, mais bon, combien de temps ça va durer, on sait pas. Et quand je voyais mes élèves de terminale, pour le coup, oui, ça, c'est un vrai problème.
Un problème d'apprentissage, de concentration.
D'apprentissage. Oui. C'est-à-dire, tous les profs aujourd'hui vous le diront au lycée. On arrive le matin à 8h ou 9h, il y a des élèves qui sont fatigués et qui restent fatigués. Alors c'est normal, okay, ils sont levés tôt, d'accord, ok, mais ils restent fatigués en fait toute la journée. Et assurément, on le sait, on le voit, il y a des échanges de messages, des réseaux, des TikTok et des Instagram et des Snap, etc., qui vont loin dans la nuit. Voilà, je suis d'accord, il ne faut pas démoniser, comme vous disiez, il y a plein de choses qui se passent et qui sont super bien, mais... Je crois qu'il y a aussi, on disait qu'il fallait apprendre à dormir, il faut aussi apprendre à utiliser ces outils. Quoi.
Et donner l'exemple, c'est important quand même d'insister là-dessus. Si on passe, nous, notre soirée devant l'écran, c'est compliqué d'expliquer à l'ado que... que c'est très mauvais pour son sommeil.
Parce qu'il y a des fois que l'adulte regarde la télé par la nuit et on dit à notre enfant, un enfant, un jeune, un adolescent, non, tu ne peux pas regarder le téléphone, tu ne peux pas regarder la tablette, non. Alors tout le monde s'en va dormir, ça y est.
Carmen Schroeder, est-ce que c'est vrai que les enfants trop fatigués ont du mal à s'endormir?
Tout à fait.
Ça, cette histoire de train du sommeil qui passe, oui, ça c'est un lieu commun assez fréquent.
C'est souvent lié chez les jeunes enfants à un problème du coup de régulation des émotions. Mm-hmm. Ils deviennent extrêmement nerveux, n'arrivent plus du tout, en fait font des crises de colère, etc. Et les parents le disent, hein, il est trop fatigué. Et du coup l'enfant se met souvent dans une excitation motrice même, c'est-à-dire il bouge tout le temps pour lutter contre cette fatigue perçue et n'arrive plus à trouver le sommeil. Donc c'est d'être vigilant, et vous l'avez dit tout à l'heure très bien, d'être vigilant par rapport aux signes de fatigue, que ça soit chez soi-même ou chez l'enfant, c'est important. Et ça, c'est aussi ce qu'on va travailler avec les adolescents, en fait, de remarquer quand on a des premiers signes de fatigue et de les écouter. Et avec les adolescents, ce qui marche bien en général, c'est de revoir la base scientifique, ça leur parle beaucoup, de comment le sommeil s'organise, comment la lumière finalement excite l'horloge biologique, comment ça décale. Et après, leur demander qu'est-ce qui te paraît jouable, en fait. Quel est le compromis que tu serais prête à faire pour peut-être améliorer la concentration ou être en meilleure forme santé mentale la journée. Et donc à partir de là, en général, on trouve les solutions. Si c'est juste imposé sous l'hygiène de sommeil ou d'après la volonté parentale, ça ne fonctionne pas.
Il vaut mieux expliquer, effectivement. Raconter une histoire aux ados le soir, ça marche moins bien.
Mais ils peuvent écouter des histoires, relire des histoires, ça marche toujours.
Rosa Jouvet, les histoires qu'on invente pour les petits, sont-elles les meilleures?
Toutes les histoires sont les meilleures si l'enfant les aime. Mais il y a des histoires que nous pouvons faire qui soient le meilleur. Mmh. On peut ramasser les histoires traditionnelles.
Il faut transformer les contes.
Transformer. Il faut expliquer.
Pour que ça termine bien, par exemple.
Fois, être calme. On doit essayer de transformer les histoires, quelques histoires, en une histoire pour dormir.
Et vous conseillez dans votre livre, ça m'a étonnée, de faire fermer les yeux aux enfants. Surtout pas les yeux ouverts.
Oui, c'est très important parce que avec le yeux fermé, on peut imaginer plus. C'est important de raconter une histoire, mais mon petit, tu vas fermer les yeux.
Thibaut de Saint-Maurice, puisque vous êtes philosophe, j'ai envie que vous soyez le vieux sage, le vieux sage de cette émission. Est-ce que vous avez un secret ultime à dévoiler aux parents qui nous écoutent sur ce sujet-là, le sommeil?
Non, alors vraiment pas.
Que vous auriez apporté l'expérience.
En tout cas, pas un secret en forme de leçon, absolument pas. Ça, vraiment pas. Non, en revanche, moi, il y a deux choses que j'ai appris. C'est, un, avec les enfants, il faut jamais trop espérer s'endormir ou faire sa sieste ou faire sa nuit. Enfin, dormir soit bien, comment dire, c'est aléatoire. Voilà, il faut abandonner l'idée que la nuit nous appartient ou que le sommeil nous appartient.
Ou que les nuits soient plus belles que nos jours.
Voilà, enfin tout ce que vous voulez.
Ah oui.
Mais en tout cas, que voilà, il faut abandonner cette idée-là. Le sommeil, j'en suis dépossédé. Je pourrais peut-être le reconquérir et je pourrais voilà me reposer. Mais okay, il faut abandonner cette idée-là. Et la deuxième idée, c'est que au fond, il n'y a pas d'intentionnalité. C'est-à-dire que, évidemment, s'il s'endort pas, cet enfant, c'est pas parce qu'il veut me faire payer quelque chose, ou parce qu'il m'en veut, ou parce qu'il y a une forme de, je sais pas, de méchanceté,
de malveillance,
etc. Lui-même, il est peut-être, cet enfant, la première victime du fait qu'il n'arrive pas à s'endormir. Et que donc, mais qu'est-ce que je pourrais trouver pour l'aider, en fait, pour faire en sorte que le sommeil trouve cet enfant.
Et c'est dans les deux sens. Ouais. L'enfant trouve le sommeil et le sommeil
doit
trouve
le trouver.
L'enfant.
Alors, est-ce que c'est, éteindre une lumière? Est-ce que c'est marcher un peu avec lui? Est-ce que c'est trouver un doudou? Est-ce que c'est chanter? Alors, moi, je chante très mal, mais voilà, de changer la position, je sais pas. Mais en tout cas, c'est qu'il y a toujours quelque chose à trouver sans être dans une forme de blocage, quoi.
Merci beaucoup d'avoir insisté sur l'absence d'intentionnalité. Non, mais c'est important de le rappeler. C'est,
pas, pour,
c'est
crevé,
pas pour nous nuire.
Non, mais quand on est crevé, quand on n'en peut plus, oui.
Carmen Schroeder.
Alors, moi, je trouve que c'est merveilleux ce que vous dites. Et peut-être, j'aimerais bien quand même dire un mot aux parents qui, du coup, n'en peuvent vraiment plus. Parce que parfois, les parents sont vraiment dépassés dans leurs limites d'adaptation à l'enfant qui dort très mal. Et il y a aussi des enfants qui ont d'autres difficultés somatiques, neurodéveloppementaux, où vraiment le sommeil est très perturbé. À ce moment-là, c'est important de pouvoir consulter et de reconnaître aussi que nos limites sont dépassées et de se faire aider, parce que à partir du moment où on ressent une certaine rancune, c'est un peu ce que vous dites aussi, par rapport à l'enfant, et qu'on se sent presque un peu bouffé par l'enfant, c'est un signe d'alerte, et je pense là il faut chercher de l'aide pour et se faire accompagner.
Voilà, c'est pas un sacrifice, la parentalité.
Bah, non.
C'est
ça. Non.
Allez, il est temps à présent de retrouver Denis Chessou, qui surveille de près l'actualité du livre pour enfants. Voici ses conseils de lecture. Bonjour Denis.
Dorothée Barba sur France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
Bonjour Dorothée et à vous tous. On va débuter donc par Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michaël Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions de l'École des loisirs à partir de 8 ans.
Au cœur de la forêt du village de Belle-Écorce vivent des animaux doués de raison, de parole et d'humour qui portent des vêtements cousus de leurs propres pattes.
Et concoctent des pâtisseries à vous en retrousser les babines. C'est précisément ici que l'on fait connaissance avec Archibald Renard.
Il avait travaillé toute la journée pour se débarrasser de la poussière qui s'accumulait sur les étagères depuis trop longtemps.
Le métier d'Archibald, libraire. Il recueille et vend les livres écrits par les autres animaux de la forêt à l'image de Phineas Tortue qui se étonne d'ailleurs que ces titres ne soient pas toujours vendus.
Êtes-vous vraiment sûr que cette étagère est la plus adaptée à l'exposition de mes ouvrages ? Loin de moi l'idée de remettre en cause vos compétences.
Oh là là, alors Archibald est tellement, tellement submergé par le flot de paroles de son interlocuteur qu'il ne prête pas attention à un client discret.
Machinalement et sans pouvoir lui accorder plus d'attention, le renard procéda à l'encaissement du client mystère, perdu dans les propositions du très verbeux Phineas Tortue.
Et c'est précisément là que l'aventure d'Archibald de Renard débute.
Alors qu'il installait le chevalet en bois peint,
librairie de la famille Renard,
que M. Castor avait récemment rafraîchi, le renard entendit quelqu'un s'excuser plusieurs fois en bousculant chaque fois de nouveaux passants.
Archibald ne tarde pas à identifier un vieil ami.
Le libraire reconnaît M. Taupe à la demi-coque de noix qu'il portait sur son dos et aux énormes lunettes posées de travers sur son museau.
Ce grand maladroit fréquente depuis longtemps la librairie familiale. Mais aujourd'hui, il vient avec un objectif précis et c'est très bien ou fouiner dans la boutique.
Je cherche mon livre. Il était là et j'en ai désespérément besoin. Ce sont mes mémoires. Mémoires d'outre-terre par Ferdinand Taupe.
Ah, ce livre-là, qu'Archibald vient de vendre à un mystérieux inconnu. Alors, dans un livre vraiment bondissant entre l'aventure et l'enquête, Archibald Renard et Ferdinand Taupe s'apprivoisent avec tendresse à mesure qu'ils remontent le fil du temps et de la mémoire. Car Ferdinand est atteint par l'oubli-tout. Une référence à la maladie d'Alzheimer qui se révèle au centre de l'intrigue est traitée poétiquement, avec une empathie bouleversante et sans jamais sombrer dans le pathos.
Et Denis, vous avez noté les illustrations de Sanoé.
Ben oui, parce qu'elles permettent vraiment de s'installer confortablement dans le moelleux de cette histoire. Grâce à des intérieurs cosy, des forêts chatoyantes, les sens sont en éveil aussi grâce à l'écriture de Brun-Arnaud qui fait chanter les mots avec virtuosité, la qualité de son univers danse, la maîtrise de son rythme puis la profondeur de son propos font que ce livre donc est un roman tout à fait remarquable, disons-le, dans la production contemporaine et qui a tout pour être un immense succès. Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe à l'École des loisirs, c'est à partir de 8 ans. L'art de la préhistoire à aujourd'hui, de Sonia Chen, illustré par Rémi Saillard, aux éditions Priva Jeunesse. Donc un documentaire pour les pré-ados, ados et pour tout le monde, organisé en 50 questions-réponses. Un peu d'apprentissage ne peut jamais nuire.
Du bison à l'empereur, de 60 000 ans avant Jésus-Christ à 476 après.
Merci Madame et Monsieur Néandertal, car depuis 2018, on sait qu'il est notre premier artiste grâce à l'exploration de trois grottes d'Espagne. Aujourd'hui, le record est à moins 64 000.
Pour les premières sculptures...
Ah ben là, ce sont les sapiens. La fertilité de la femme et de la terre dans une même statuette, celle de la Vénus de Wildendorf en Allemagne.
Pourquoi reconnaît-on toujours la région ?
Eh, parce qu'il obéit à des règles d'équilibre et de symétrie pour ne pas troubler l'ordre du monde avec des couleurs vives et codifiées.
Et quand on dit d'une personne qu'elle est canon ?
Là, vous faites référence à Polyclète, bien sûr, artiste grec qui cherchait une formule mathématique pour sculpter le corps humain.
Du château fort à la Joconde ?
Pourquoi faut-il décorer les églises ?
Une enluminure, c'est quoi ?
Ah bah c'est le début des livres illustrés, reproduits par les moines.
Qu'est-ce que la Renaissance ?
La géométrie et la perspective.
Le statut des artistes évolue-t-il ?
Baroque et baroque.
Et comment naissent les courants artistiques ?
Des impressionnistes à Warhol ?
De l'artiste au plasticien.
Alors ce livre nous apprend sur nous-mêmes, puisque le principe de l'art, c'est de partager, de nous interroger, avec des illustrations d'un saillard efficace dans le documentaire, mais aussi espiègle, l'art de la préhistoire à aujourd'hui, Sonia Chen, dans la collection J'ai tout compris, aux éditions Priva Jeunesse. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou, nous vous souhaitons de belles lectures, et puis évidemment une bonne fin d'émission à vous Dorothée.
Merci beaucoup, Denis Chessoux. L'as-tu lu, mon petit loup? À retrouver en podcast et sur le site de France Inter. Je suis toujours avec mes trois invités qui nous ont donné de précieuses pistes pour la gestion du sommeil des enfants. J'ai à présent une dernière question à vous poser à tous les trois, question rituelle de Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Rosa Jovet.
Bon, j'habite près de Barcelone, alors l'odeur de mon enfance, c'est les bois de la Méditerranée. Et c'est la lavande, le thym, le pin et l'odeur de l'air de la mer. C'est tout cela.
Merci
ensemble.
Pour ça. Carmen Schroeder, quelle est l'odeur de votre enfance?
Alors moi, étant très gourmande, ma grand-mère qui prépare son bouillon de bœuf et qui l'odeur qui remplit progressivement la maison, ça c'est vraiment une de mes odeurs préférées.
Même punition, Thibaut de Saint-Maurice.
Je pense que le parfum de mes grand-mères. J'avais deux grand-mères qui mettaient des parfums, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, je me souviens que quand elles venaient déjeuner chez nous, ou quand on les voyait, ou quand on était en vacances avec elles, en fait, d'une pièce à l'autre, on savait qu'elles étaient passées parce qu'il y avait ce parfum des grand-mères. C'était deux parfums très différents, mais voilà. Et comme ça fait longtemps qu'elles sont parties sous d'autres cieux, eh bien voilà, ça me rappelle ça.
Il est très beau l'inventaire olfactif de la semaine. La lavande, le bouillon de bœuf et les parfums de deux grand-mères. On les met sous cloche, ça concocte la recette du parfum de l'enfance. Histoire du soir pour bien dormir, le livre de Rosa Jovet, traduit de l'espagnol par Béatrice Duner et publié aux éditions Les Arènes. Comment inventer ou raconter des histoires qui font dormir les enfants. Je recommande aussi le site internet de la SFRMS, dont Carmen Schroeder est secrétaire générale, Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil, qui propose des ressources passionnantes, et notamment sur les liens entre sommeil et apprentissage. Mieux dormir pour mieux apprendre. Et puis Thibaut de Saint-Maurice, on vous retrouve dans l'émission d'Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse, le vendredi pour une philosophie de la vie quotidienne. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci.
Et je voudrais vous recommander aussi la nouvelle livraison du podcast Oli, les histoires pour les enfants proposées par France Inter. J'ai le plaisir d'avoir écrit un épisode. C'est une histoire de chapeau melon qui voulait partir en voyage. C'est à retrouver sur le site et sur l'application France Inter.